Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, ce conte macabre en Ituri après l'attaque de la milice Codeco hier dans une dizaine de villages de Banyarikilo. 62 morts, 23 blessés et plus de 150 maisons incendiées et pillées. Un calme précaire s'observe ce samedi grâce à l'intervention des FARDC, rapporte des sources sur place. Conditions de vie difficiles pour les enfants détenus à la cellule pour mineurs annexée à la prison centrale de Kalemie. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Ainsi, l'ONG Enfants sans frontières vole au secours de ces enfants avec de la nourriture, ce qui permet de suppléer à l'alimentation des détenus qui sont mal nourris. Et puis, l'invité de ce midi, Freddy Nguomoja, directeur de l'Office congolais de contrôle OCC Ituri, il nous parle du changement de statut de l'agence OCC Ituri en direction provinciale et ce que cela va apporter dans le fonctionnement de cette entreprise publique dans cette province. Mais avant de déballer ces titres, sachez que le président de la Confédération suisse, Alain Berset, est arrivé hier vendredi en fin d'après-midi à Bukavu. C'est la troisième étape de sa visite de travail en RDC après Kinshasa et Goma, où il s'est rendu dans un camp de déplacés. Sur place à Bukavu, le président Berset a visité cet avant-midi l'hôpital de Panzi de Dr Denis Mukwege, avec qui il s'est entretenu. Notons que Bukavu est le siège pays de la coopération suisse en RDC, qui disponibilise chaque année une enveloppe de presque 30 millions de dollars pour financer des infrastructures et des projets dont une bonne partie sont au sud Kivu. Sa visite prévoit également dans cette journée la visite du plus grand centre de formation professionnelle du sud Kivu, financé également par la coopération suisse, ainsi que quelques infrastructures de santé, notamment une centrale des médicaments. Le président suisse est accompagné des ministres Patrick Muyaya des médias et Fabrice Puella des droits humains. À tous et à toutes, bonjour. Nous sommes en Ituri. 62 morts, dont 14 miliciens de la Codeco, 23 blessés et plus de 150 maisons et boutiques incendiées et pillées. C'est le nouveau bilan de l'attaque des miliciens de la Codeco hier dans une dizaine de villages dans la chefferie de Banyarikilo. Nous sommes à 55 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, un calme précaire s'observe ce samedi grâce à l'intervention des FARDC qui ont repoussé l'ennemi. Isaac Remoyope, reportage.
Les dégâts ont été plus enregistrés à Kiloeta, chef-lieu de la chefferie de Banyarikilo, et à Matete, à 6 km de Mungwalu, parmi les villages qui ont été la cible d'attaque des miliciens de la Codeco. Selon des sources locales, 33 corps ont été découverts vendredi soir à Kilo et 8 à Matete. D'autres personnes ont été tuées dans les villages proches au cours de cette attaque simultanée. Parmi les victimes, il y a 22 hommes, 12 femmes et 5 enfants. 23 civils sont blessés, dont 11 sont dans un état critique et nécessitent d'être évacués à Bounia pour des soins précis, certains notables. Ces derniers indiquent que deux structures sanitaires locales ont été pillées et saccagées par ces miliciens. Plus de 150 maisons ont été incendiées et environ 200 boutiques pillées par ces groupes armés. Selon des sources de sécurité, les FARDC ont neutralisé 14 assaillants et blessé 4 pendant les combats entre les deux parties. Toute la population dans la zone est en fuite. Certains habitants qui ont passé la nuit dans la forêt commencent à regagner les milliers où un calme précaire s'observe depuis ce samedi matin. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, à Goma, une personne a été tuée par balle vendredi aux environs de 20h au quartier Kieshero. Dans la nuit précédente, celle de jeudi à hier vendredi, trois autres personnes ont perdu la vie, tuées par balle par des hommes armés non identifiés. Selon plusieurs témoignages en ville, certains auteurs de ces actes sont habillés en tenue militaire et policière. Pour les habitants de Goma, les autorités doivent trouver les moyens d'arrêter ce décompte macabre. Claude Rougo est président du conseil de la jeunesse dans la commune de Karisimbi. Il explique la situation au micro de Rosalie Zawadi.
Imaginez-vous quand nous commençons à enregistrer 6 cas d'assassinat dans l'intervalle seulement de 2 semaines, ça fait tellement peur aux gens. Au jour le jour, on est en train d'assassiner nos jeunes. Et là, nous nous posons la question, pourquoi les inciviques sont en train de le faire et pourtant la ville de Goma est surmilitarisée. La ville de Goma avait accueilli il n'y a pas longtemps le déplacé venant de Rutshuru, le déplacé venant de Masisi, mais nous sommes en train de nous poser la question comment les déplacés ont fui la guerre à Rutshuru, ont fui la guerre à Masisi pour Goma, et de Goma maintenant, ils commencent à passer les nuits sous crépitement des balles, sous les assassinats, sous les phénomènes de cambriolage. Vraiment, on en a assez. Perdre 6 de nos citoyens dans l'intervalle de 2 semaines, c'est déjà trop. Les autorités doivent multiplier les efforts pour nous faire la paix.
Selon la coordination urbaine de la société civile de Goma, au moins 14 personnes ont été tuées par balle dans cette ville depuis le début de cette année. Plusieurs autres ont été blessées par balle et sont pris en charge dans les structures sanitaires. Cela, c'est sans compter le nombre des cambriolages tout aussi élevé depuis janvier dernier. Du côté de la province de la Tchopo, plusieurs dizaines de combattants Mai Mai du défunt Luc Yabili, général autoproclamé dans le territoire de Bafouassende, se disent engagés à intégrer les FARDC. Ils ont déjà quitté leur campement de Balobé et sont en route pour Kisangani. Pour l'administrateur du territoire de Bafouassende, cette détermination marque le patriotisme de ces combattants. D'autres groupes de Mai Mai qui contrôlent une bonne partie de cette entité leur emboîtent le pas. Jacques Moukonkole.
Ces combattants Mai Mai viennent de Balobé dans le secteur d'Opiengé, en territoire de Bafouassende. Ils doivent parcourir 380 km à pied pour atteindre Kisangani. Selon Willy Simbié, administrateur de ce territoire, les rapports de ses collaborateurs de Balobé et Opiengé font état de la détermination de ces combattants Mai Mai à quitter la brousse afin d'intégrer les FARDC.
Ils ont quitté leur campement, c'est vers Balobé. Balobé se sépare de leur campement par la rivière Loya. Passé un moment-là, Balobé, ils ont même fait des meetings. Ils ont déjà quitté Balobé pour Opiengé. D'après les images, ils sont armés. Leur destination, selon les dires, c'est comme s'ils vont faire Kisangani.
Les autorités militaires de la 31e brigade des FARDC à Kisangani affirment suivre de près ce mouvement des Mai Mai. Cependant, elles tiennent au respect des recommandations relatives à l'intégration et recrutement des nouveaux candidats au sein des forces armées nationales congolaises. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province de Maïndombe, le rapporteur de l'Assemblée provinciale Jinampia Lefutu est mort noyé dans la rivière Mfimi. C'était dans la nuit de jeudi à hier vendredi au village Kempili dans le territoire de Koutou. Ce député provincial avait emprunté une baleinière transportant aussi plusieurs autres passagers qui quittaient la cité de Nyoki pour la ville d'Inongo, mais il est le seul à se noyer, a précisé David Bisaka, rapporteur adjoint de l'organe délibérant de Maïndombe, qui livre l'information à la presse. Pas de précision pour l'instant sur les circonstances de cette noyade. Des enquêtes sont ouvertes, a dit le député provincial David Bisaka au micro de Irène Boma.
L'Assemblée provinciale de Maïndombe annonce avec regret la mort de son rapporteur, honorable Jinampia Lefutu, décédé jeudi par noyade sur la rivière Mfimi. Des enquêtes sérieuses sont en train d'être menées pour retracer les circonstances réelles de sa mort et engager la responsabilité éventuelle auteurs de cet acte. En attendant l'aboutissement, le bureau de l'Assemblée provinciale de Maïndombe présente ses sincères condoléances à la communauté en général et à la famille éplorée en particulier.
D'après nos informations, la victime serait placée au-dessus de l'embarcation et c'est de là qu'elle va faire une crise et va se noyer. Qu'en dites-vous?
Maintenant, là, le journaliste de l'Assemblée ne sera pas à mesure de vous expliquer les circonstances parce que les plongeurs sont dans l'eau en train de chercher les corps. Dans le reste, le bureau se fera le devoir de vous communiquer plus tard.
Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui se sont noyées?
Seulement les rapporteurs qui se noient.
Direction la province du Tanganyika, l'ONG Enfants sans frontières a apporté hier de la nourriture aux enfants en conflit avec la loi, des enfants détenus à la cellule pour mineurs annexés à la prison centrale de Kalemie. Cette action permet de suppléer à l'alimentation des détenus qui sont mal nourris. Paula Munanga a été sur place et nous présente la situation qui prévaut dans cette cellule pour mineurs.
Une fois à l'intérieur de la cellule pour mineurs, des odeurs de faux sceptiques envahissent les narines, l'air est irrespirable. Les mineurs qui reçoivent la visite de l'ONG Enfants sans frontières sont assis sur des banquettes en train de suivre des conseils que leur prodiguent les membres de l'ONG pour le changement de leur mentalité. Et une religieuse qui est aussi membre de l'ONG prêche la bonne nouvelle à ses enfants. Après cette séance, les détenus sont conviés au repas. Ils n'ont pas bonne mine. Selon certaines sources, généralement ils se nourrissent 3 fois par semaine à cause de l'insuffisance de la nourriture qui est une subvention du gouvernement provincial du Tanganyika. Signalons que la cellule pour mineurs compte actuellement plus de 50 pensionnaires qui partagent une seule toilette qui est à l'intérieur de la cellule. Certains d'entre eux souffrent de la gale,
une maladie de la peau qui est contagieuse et qui s'accompagne de démangeaisons intenses. Cette maladie serait causée par les mauvaises conditions hygiéniques des détenus, rapporte une source sur place. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette crise au sein de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières suspend les activités de cet organe délibérant et convoque à Kinshasa pour consultation les deux chambres, les deux bureaux de l'Assemblée provinciale. Peter Kazadi l'a fait savoir dans un télégramme daté d'hier, 14 avril, des détails avec Lech Walassa.
Selon le texte de ce télégramme daté du 14 avril, c'est pour prévenir les troubles à l'ordre public. En effet, les deux bureaux ont invité les élus provinciaux ce 15 avril à la même heure et au même endroit. Ce message intervient après l'élection des deux bureaux dont l'un a tenu une réunion à l'hémicycle provincial et l'autre à l'hôtel Ruzizi de Bukavu. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur invite les deux bureaux à sursoir jusqu'à nouvel ordre la tenue des plénière, ni à l'hémicycle provincial, ni à tout autre endroit de la ville de Bukavu.
Le gouverneur du Sud Ubangi, Jean-Claude Mabenze, a réceptionné hier du matériel roulant pour le suivi d'exécution des travaux du programme de développement local de 145 territoires, travaux sous gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF, une remise qui intervient dans la ville de Gemena peu avant le lancement officiel de ce programme. Paul Matendo Mayamba est notre envoyé spécial sur place. Voici son reportage.
Il s'agit de 4 motos destinées aux administrateurs des territoires de cette province, dont Bujala, Bobito, Kungu et Libengue, et d'une Jeep Land Cruise pour le gouverneur. Lui, Jean-Pierre Mabézé, appelle toutes les parties prenantes à s'impliquer pour la réussite de ce programme.
Et j'attire l'attention de toutes les composantes sur le respect à la fois de mission, mais aussi du timing des activités.
Pour sa part, le représentant des administrateurs des territoires estime que le PDL 145T vient contribuer au développement de cette province. Jean-Pierre Elongo rassure.
PDL, à travers l'antenne provinciale d'ici d'Ubangi, nous allons les utiliser, les motos mises à notre disposition, en bon père de famille. Pas les transformer en taxi-moto ou à des courses privées. Ce n'est pas pour les athées, mais pour les comités de suivi. Nous avions déjà commencé à faire les suivis. Maintenant, nous serons plus souples et plus mobiles.
La construction des infrastructures, dont les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs, a commencé depuis février dernier, affirme la mission de contrôle de la CFF. De la ville de Gemena, dans la province du Sud Ubangi, Paul Matendo, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Le projet Reboisement a été lancé jeudi au village Lubilé, situé à 145 km, voulais-je dire, au nord-est de la ville de Kindu, dans le territoire de Pangui. Ce projet de 12 mois financé par le Fonds forestier national est exécuté par la Fondation Dr Munyangi Fomu en sigle. Des précisions dans ce reportage de Florence Kiza.
Ce projet de reboisement du village Lubilé s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et affirme les chefs de projet. Dans ce village, déjà, un espace de 2 hectares est disposé par l'autorité coutumière pour cette fin. C'est ainsi que Michel Mouemedi invite la population à s'approprier ce projet.
Le projet reboisement est un projet financé par les fonds forestiers de la République. Donc, nous allons reboiser 20 hectares au village Lubilé. À Lubilé, nous allons planter 5 hectares et au village environnant Lubilé, nous allons planter l'acacia. Nous avons acheté 5 kilos d'acacia. Ce sont des essences à croissance rapide. De donner une solution, puisque le Congo est une solution pour le réchauffement climatique. Voilà pourquoi nous sommes obligés de planter ces essences à croissance rapide qui peuvent donner une solution au réchauffement climatique dans notre milieu. Nous allons effectivement utiliser une main d'œuvre locale, 50 personnes. Ce projet-là, c'est notre projet et nous devons nous approprier ce projet.
De son côté, le chef du village Lubilé, Shindano Bueta, promet son accompagnement tout au long de l'exécution de ce projet. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Tunisie. Un footballeur professionnel tunisien est décédé après s'être immolé par le feu en début de semaine pour protester contre l'état policier à la suite des tracas avec la police, a indiqué vendredi son frère Nizar Issaoui. C'est de lui qu'il s'agit, 35 ans, qui était sans club après avoir évolué au sein de plusieurs équipes de l'élite et des divisions inférieures. S'était immolé lundi par le feu dans la localité de Afouz, dans la région de Kairouan. Dans un message posté sur sa page Facebook avant de passer à l'acte, Nizar Issaoui avait affirmé avoir décidé de se condamner lui-même à mort par le feu. « Je n'ai plus d'énergie, que l'état policier sache que la peine sera exécutée ce jour », avait-il ajouté.
L'invité.
L'agence de l'Office congolais de contrôle OCCI Touri est érigée en direction provinciale par la hiérarchie de cette entreprise publique. Cette décision a été prise après une réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue en septembre 2022. Par la même occasion, les anciennes sections de l'OCC d'Arou et de Mahagi sont devenues des agences. Mais qu'est-ce que ce changement de statut de l'OCC va apporter dans le fonctionnement de cette entreprise publique en Ituri? Quel sera l'impact de cette décision pour le développement de cette province? Réponse avec Freddy Womoja, directeur de l'Office congolais de contrôle OCCI Touri. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Directeur Freddy Womoja, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a concouru à cette élection de l'agence de l'OCCI Touri en direction provinciale?
L'OCCI Touri, qui hier était une agence, aujourd'hui c'est devenu une direction provinciale. C'est la volonté de la hiérarchie. Et la raison qui ont milité à ce que l'agence soit élevée au niveau de la direction, il y a d'abord sur le plan de l'objet social de l'office, qui est le contrôle. On a trouvé que l'OCC, agence de Bounia, se comporte très bien. Donc le contrôle s'est fait comme il se doit, conformément aux lois de la République, conformément aux différentes instructions, conformément même aux normes, que ce soit les normes internationales, que ce soit les normes nationales, même régionales. Et ça a donné comme résultat la production de l'agence et correspond aux assignations que nous donne la direction générale. Donc nous produisons conformément aux recommandations de la direction et à la satisfaction de la direction générale. Ça, c'est un point qui a milité à ce que cette agence soit élevée au rang de la direction. Et sur le plan des infrastructures, l'agence a construit des bâtiments imposants, modernes et bien équipés, même dans les fins fonds de la province de l'Ituri.
Quels sont les défis qui vous attendent aujourd'hui?
Et nous devons toujours travailler très fort, malgré l'insécurité qui sévit dans notre province de l'Ituri, malgré les états de route dont les autorités militaires qui sont des gouverneurs se battent jour et nuit pour essayer quand même d'arranger ces routes. L'OCC a l'obligation vraiment de travailler conformément aux normes, conformément aux instructions. La production soit encore plus élevée par rapport à ce que nous avons comme aujourd'hui comme production. Et nous avons aussi la mission de protéger notre population. Nous savons que nos frontières sont poreuses. Il y a beaucoup de choses qui entrent frauduleusement, mais nous faisons quand même un effort pour que les gens reviennent à la raison, qui passe par deux voies indiquées.
Alors, monsieur le directeur, quel sera l'impact de cette décision de la hiérarchie pour la province de l'Ituri? Cela va-t-il contribuer à la maximisation des recettes, l'augmentation des effectifs des agents ou encore le développement de cette province de manière générale?
Justement, il y aura un impact parce que nous étions une agence, aujourd'hui nous sommes devenus une direction. Donc la structure sera revue à la dimension d'une direction. Nous aurons des divisions. Nous aurons des divisions et il y aura encore beaucoup d'autres services. Cela va entraîner d'abord la promotion de certaines personnes, c'est tous ceux qui ont contribué à l'élévation de cette agence en direction. Évidemment, il y aura aussi besoin en personnel. Quand il y aura besoin en personnel, certainement, il y aura quelques cas d'engagement qui peuvent s'opérer ici à Ituri. Et cela va essayer de diminuer un peu le chômage dans notre province. Et nous continuons à être bénéficiaires de l'encadrement par les autorités de la province. Chaque fois qu'il y a un problème, il n'existe n'hésitez pas à venir en aide à l'OCC. Il porte à cœur ce service.
Quel sera maintenant l'impact de cette décision de la hiérarchie? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, si cette division provinciale de l'OCC est déjà mise en place, les opérateurs économiques seront aussi bénéficiaires de cette décision?
Oui, les opérateurs économiques qui sont nos partenaires, ils sont toujours bénéficiaires des services de l'OCC. D'une manière ou d'une autre, nous les avons toujours accompagnés. Et en devenant une direction, les opérateurs économiques seront encore plus bénéficiaires. Certaines matières qui se traitaient au niveau de Kisangani, puisqu'on était dans la direction orientale, et ces matières-là seront traitées directement ici au niveau de Bounia, puisque nous devenons déjà une direction.
Le service de l'OCC au niveau de Haroumagui érige aujourd'hui des agences. Comment ça va se passer concrètement avec la direction provinciale ici?
Oui, avec la nouvelle structure où nous sommes devenus une direction provinciale, la section de Mahagui est devenue un détachement, tandis que la section d'Haro est devenue également un détachement. Le détachement dépend directement de la direction provinciale. Donc, le travail va se faire toujours comme ça s'est toujours fait. Mais on a élevé aussi ces entités-là en détachement. Donc, des détachements, c'est presque équivalent au service. Au lieu que ce soit des sections, ce sera comme des services.
Qu'en est-il de la section de Kasséni dans le territoire du Rumu?
Oui, la section de Kasséni demeure toujours section. Il faut qu'il puisse fournir encore des efforts dans le cadre de la production.
Directeur Freddy Ngomodja, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Le directeur de l'OCC Ituri répondait aux questions de Martial Kizabiamungu. C'est la fin de ce journal coordonné par Piero Elamenji, supervision d'Alain Rungmushinj, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.